Le temps des fêtes approche et qui dit temps des fêtes dit dette, dit stress, dit...
Oh my God.
Dit le trouble de trouver des jouets, de trouver des cadeaux, de trouver des idées pour faire plaisir à celles et ceux qu'on aime et celles et ceux qui pensent qu'on les aime. Alors, nous avons décidé pour cet épisode de vous aider en créant une liste de jeux pour tous les budgets. Alors, ici Luc.
Ici Jake.
Et vous écoutez notre podcast de jeux de société.
Ménage à deux.
Jake, est-ce que ça te stresse, Noël?
Luc. Tu m'as fait penser à une publicité, une annonce qui jouait dans le temps, là, 2005, là, dans cette époque-là. Puis ouais. C'est comme la chanson du la casse-noisette. C'est comme, mais il chante... Puis là, à la fin, c'est comme... Payé avec Interac.
Ça, c'est pas la chanson de casse-noisette, c'est la chanson de Tetris, en passant.
Ah, non, ben, oui, oui. Peut-être les deux. parce que Tetris, la chanson thématique, ça sent pas de même. Peut-être que toi, t'es arrivé à comme le niveau 99, puis ça change.
Non, il y avait ça dans le jeu pour Nintendo, là, dans les années 80. Il y avait cette chanson-là.
Parce que moi, je pensais que c'était plutôt comme un genre de... comme Tetris. J'ai oublié comment ça... C'est comme... C'est comme russe.
Oui, il y avait ça aussi.
Mais anyway.
Oui, il y avait ça.
Dette, payé avec
Interac. Peut-être que je suis perdu, mais je suis pas mal sûr qu'il y avait ça dans Tetris.
Payé avec Interac. Donc,
je pense qu'il y avait plein de chansons à connotation russe, en fait, dans le jeu Tetris.
Ouais. Ben, I guess c'est ça, avec la casse-noisette aussi. C'est
je pense que ça serait moins populaire ces temps-ci.
Oh my God. Ben, je veux dire, on va-tu arrêter d'écouter Tchaïkovski?
Ben,
à cause de ça.
Quand tu te souviens au début, quand ils annulaient tout le monde, puis ils voulaient plus. Ils ont annulé plein de pièces de théâtre, puis d'opéra, d'origine russe, un peu partout à cause de ça. Donc, là, je me disais, c'est ça, en tout cas. Je veux pas entrer dans la politique.
Le monde a besoin d'arrêter de moraliser tout, là. Comme j'ai vu une bonne vidéo là-dessus, et comme, c'est pas à dire que tu peux pas comme, être en désaccord avec des idées. Et des concepts. Il y a une limite à ne pas moraliser. Il y a une limite que c'est vraiment comme, oh, tu tues quelqu'un? Oh, ça va. Je suis pas d'accord, mais ça va. Mais à un certain point, c'est comme, quelqu'un qui fait quelque chose que tu n'aimes pas, ça va pas dire tout le temps que c'est une mauvaise personne. Et on moralise souvent et on dit, oh, cette personne est une mauvaise personne puisque leur idée est mauvaise. Puis je trouve que avec tout le cancel, je suis d'accord avec tout ce qui est...
Mais là, la guerre, c'est quand même, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est une guerre, mais je veux dire, Tchaïkovski, le gars est mort.
Oui, c'est ça.
C'est comme, ouais, exactement. Il fait pas partie de ça. Il quand même pas. Mais peut-être
c'était
sa famille.
C'était peut-être pas un bon gars, je le connais pas.
Oui, mais il y a plein de monde en Russie. Peut-être que c'est sa famille qui gagne l'argent à travers sa musique. Mais c'était des bonnes personnes qui sont contre la guerre. L'invasion. On va même pas appeler ça une guerre, c'est une invasion. Anyway. Oui, ouais. Noël me stresse un petit peu. Je dois avouer,
pourquoi?
C'est cher. Ça coûte beaucoup d'argent, je trouve. Dépendamment de qui tu as dans la vie, tu peux acheter des cadeaux. J'aime ça acheter des cadeaux pour les amis et pour la famille. Je ne sais pas cette année si je vais aller vraiment fort ou non, parce que ces temps-ci, là, avec l'inflation en plus... il y aura peut-être moins de monde qui auront des cadeaux de moi cette année parce que à un certain point, je trouve comme, waouh, j'ai dépensé combien de 1 000 $ cette année? Puis c'est pas juste les cadeaux non plus, les déplacements, aller voir la famille, tout le gaz qui est très cher. Donc, ça me stresse pas tant que ça financièrement, mais je dois avouer qu'à la fin de la saison, je pèse plus, j'ai trop bu et j'ai beaucoup moins d'argent dans mon compte. Et, sais-tu quoi? C'est comme un vendredi soir, ça.
Je comprends ça. Nous, avec ma famille, on a décidé cette année de faire des cadeaux juste aux enfants. Ça a été, c'est ça. C'était une année un peu chargé financièrement, donc mm-hmm. c'est ça qu'on a décidé de faire.
Mais c'est quoi, comme parfois dans la famille, il y a des gens qui gagnent de différents salaires, là, puis il y en a qui sont plus fortunés que d'autres, et on veut jamais acheter quelque chose trop cher pour se vanter un peu de l'argent qu'on a non plus. Et parfois, on met des limites ou parfois on dit on ne fait pas de cadeaux parce que ça a été difficile cette année. Je m'en souviens du film Four Christmases avec Vince Vaughn et Chris, son nom m'échappe pour une raison quelconque.
Je n'ai pas vu le film, donc...
OK, ben je sais c'est qui. Mais dans ma tête, je vois sa face, mais je ne sais pas son nom m'échappe.
Ah, oh, c'est pas avec Reese Witherspoon?
Yes, Reese Witherspoon.
Ah oui, j'ai vu ce film-là, oui, j'ai vu ça.
Vince Vaughn et Reese Witherspoon, puis ils arrivent, c'est un gars avec un bon job, ils arrivent chez les cousins ou chez le frère avec des petits neveux, et ils leur ont acheté un Xbox 360, quelque chose comme ça, puis c'est comme, ils avaient une limite de 10$ pour la famille. So, le gars est là avec un console de jeu qui coûte 400$, puis il pensait plaire aux enfants. Mais les parents se sentaient vraiment comme on est de la merde parce qu'on va pas acheter des bons cadeaux à nos enfants. C'est un comédie, là, c'était humoristique, mais ça arrive parfois dans les familles que quelqu'un essaie de se vanter, montrer oui, je gagne beaucoup d'argent, je donne un bon cadeau. Donc c'est un weird de moment dans l'année. Et aussi, il y a toujours les gens de frustration familiale avec certaines personnes, l'oncle qui se saoule un peu trop, et toute autre chose qui pourrait arriver qui ajoute un peu de tension familiale. Donc, c'est pas tout le temps pour tout le monde une bonne période de l'année.
Non. La réponse, dit, c'est non.
Je l'adore. Non. J'adore Noël. Puis j'écoute les films Noël déjà.
Moi, j'adore Noël quand je peux rester chez moi.
Yeah, j'ai pas ce luxe-là. Là. J'ai la famille au sud-ouest d'Ontario. À peu près
moi, j'ai de la famille ailleurs, mais on fait un Noël sur trois, on va en Ontario, un Noël sur trois, on va au Québec, puis un Noël sur trois, on reste chez
nous. Nous autres, on fait les deux familles à chaque fois. Donc, c'est à peu près 8 heures d'ici, à Windsor, dans ce coin-là. Puis après ça, on s'en va à Québec. Puis c'est à peu près 5 heures de Ottawa. Mais on fait d'habitude une ou l'autre en premier. Puis là, il faut faire toute la route. Donc, c'est comme 12 heures de route entre Québec puis Windsor. C'est long et c'est loin. Et j'aime pas cette partie-là.
Moi, je me dis tout le temps, si je suis capable d'y aller, les autres sont capables de venir. Donc, c'est ça.
Intéressant. Et donc, oui. Luc, comment ça va, mon ami?
Moi, je suis pas un gars qui est allergique à quelque chose, puis là, j'ai des allergies. On a commencé à enregistrer l'épisode en anglais, puis pendant tout l'épisode, j'ai reniflé, puis je me suis mouché. Donc, c'est très possible que vous m'entendiez renifler ou me moucher.
M'arranger ça, mon gars. T'inquiète, maman.
Tu vas arranger ça.
Tu vas arranger ça. Je vais augmenter le volume chaque fois que tu renifles.
Parfait. J'aimerais ça. J'aimerais ça parce que j'ai reniflé à des moments stratégiques où tu disais des choses.
Stratégiques.
Certaines choses. Des choses. Stratégiques, là, t'es là. Oui, alors là.
Puis tu fais le genre, là. Arc! Sais-tu quoi? Yeah. Si vous écoutez ça, puis vous êtes. Vous aimez pas ces bruits-là, ben vos gueules. Vous êtes francophone. Vous faites un comme son.
Tu sais qu'il y a des anglos, des hispanos qui nous écoutent en français.
C'est vrai. Puis bienvenue, on vous aime.
Oui, okay. Tous et toutes, okay. Autant okay. que vous okay. êtes.
Okay. Okay. Il fallait que j'explique à quelqu'un si je parlais le français récemment. J'étais comme, comment dire ça? J'ai fait un podcast en français, c'est assez, mais c'est pas assez. Ça, c'est à faire. Expliquer dans une autre langue ta capacité dans une autre langue, c'est difficile parce que je peux pas montrer à quelqu'un qui n'est pas capable de parler français à quel point que je suis capable, ouais. Mais je dois comme, what if que je vous dis que j'enseigne un cours en français? Est-ce que ça sert à un bon exemple parce que c'est plus académique, c'est de la langue, du langage plus élevé?
Mais ça dépend quelle université ou collège t'embauche.
Je vais pas chier sur mon employeur aujourd'hui et je vais pas dire le nom de mon employeur et je vais pas juger la qualité de cet employeur parce que je ne sais pas. Je fais rien qu'à enseigner. J'ai jamais entendu parler de ce collège. Ce qui est drôle un peu parce que J'ai plein de francophones dans la communauté avec qui je passe du temps. Mais je pense que c'est à cause que j'ai jamais comme fait la recherche d'étudier là-bas. Si tu comprends. Comme quand tu es en école secondaire, tu commences à entendre « Oh, Dalhousie, c'était vraiment une bonne école. Oh, University of British Columbia, University of Toronto. » Comme tu entends de quoi de certaines gens, puis tu entends ici à Ottawa, le monde dit « Oh, University of Ottawa, c'est le meilleur, puis Carleton, c'est le pire. » Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que le monde dit. C'est ce que le monde dit. Je ne suis pas en train de juger aucune université ni collège. Mais je trouve ça toujours drôle, parce que c'est comme « Who fucking cares? » On s'en calisse solide. Parce qu'une fois que tu as un job, il n'y a personne qui est comme « Ah, as-tu étudié à l'Université Sainte-Anne? » Ça, c'est un trou. Tu sais?
J'ai jamais, jamais, jamais entendu parler de quelqu'un qui a eu un emploi au Canada grâce au fait qu'il est allé dans telle université au lieu d'une autre université. Jamais.
Comme peut-être que comme quelqu'un qui a étudié, qui a fait un doctorat à l'Université de Toronto, c'est comme « Wow, c'est difficile de rentrer là-bas, hein? Donc tu as dû faire quelque chose de vraiment bien avant. » Mais ça ne va pas changer mon idée. La qualité de leur travail, c'est ce qui compte. Mais j'ai définitivement jamais entendu parler de quelqu'un qui a dit « Oh shit, t'es allé à l'Université de Toronto, t'as la job. » Mais j'ai définitivement entendu parler « Non, cette école n'est pas bonne et j'embaucherai pas de cette école. » Donc c'est plus à éviter de mauvaises écoles que d'essayer de rentrer dans une bonne école, je pense. Je pense que c'est plutôt le but. C'est le but!
Honnêtement, les universités canadiennes, j'ai jamais entendu...
C'est pas comme aux États-Unis, mettons.
Non, c'est pas, non. C'est ça. C'est comment je te dirais ça? J'ai souvent fait la comparaison, c'est que je pense qu'au Canada, il y a des universités qui sont meilleures dans certains programmes que d'autres universités. Dans certains programmes. Mais, comment je te dirais ça? La comparaison que je faisais, c'est pareil comme si je disais, Jake est plus riche que moi. Je disais, combien d'argent a Jake? Jake a 100$. Combien d'argent a Luc? 98$.
Dude, on n'est pas censé parler de notre richesse.
Donc, dans les faits, Jake est plus riche que moi, mais... On a presque le même montant d'argent. Je pense que c'est un peu ça, les classements au Canada. Puis la preuve de ça, c'est surtout que si, par exemple, tu as étudié dans une autre université, puis que tu fais application pour une maîtrise ou un doctorat dans une deuxième université, puis que tu as un meilleur dossier que la personne qui vient de cette université-là, ils vont t'accepter avant une personne de leur propre université.
Ah, j'avais entendu le contraire, que comme... C'est plus facile de faire accepter
c'est un meilleur
pour
dossier?
Une maîtrise à ta propre université. Parce que c'est comme...
Que c'était plus facile?
Ouais, parce que t'es déjà un étudiant de notre université. C'est comme, coché les boîtes? Boum, t'es là-dedans, tu sais.
Oui, mais la raison pour ça, c'est que leurs programmes sont faits pour entrer. Donc, les prérequis sont faits pour entrer dans leur... Mais si t'as un dossier avec les mêmes prérequis puis que c'est toi qui as un meilleur dossier... Tu vas passer avant quelqu'un de leur université.
Cette discussion éducative fortement intéressante a été présentée par Zivia. Zivia, la boisson gazeuse sans sucre pour vous et votre famille.
C'est drôle. J'écoute un podcast qui s'appelle Les films dans le cabanon. C'est un podcast sur des mauvais films. En fait, ils regardent des mauvais films puis ils en font la critique puis vraiment ils passent le film en détail, puis c'est très humoristique. Là. Si vous pensez que ce qu'on dit à ce podcast-ci, c'est parfois pas politiquement correct, écoutez les films dans le cabanon, vous allez voir qu'on est vraiment, vraiment doux dans ce qu'on dit.
Ah oui. Le monde peut se calmer. Là. On est comme... Ben, moi, je me considère comme un trou de cul ou un douche, mais... comme
Tu sais, ceux-là qui ont plein de poils autour. Là.
Oui, c'est ça. Comme l'élu à l'envers. J'ai écouté un match des Canadiens, comme on les appelle. J'ai pas arrivé jusqu'à la fin, mais j'ai écouté ça avec un ami. Ben, il était chez lui, puis on se textait en écoutant. Puis à la fin de la deuxième période, la première période, c'était 4-0 pour les Habs. Puis à la fin de la deuxième période, c'était 4-2 pour les Habs contre Vancouver. Et j'avais dit à 4-0, j'ai dit à mon ami, « Watch, je te gage. » Les Canucks vont gagner ce match-là. Parce que c'est les deux équipes qui n'ont pas vraiment une bonne saison, mais j'avais juste l'impression que les Habs allaient blower ça. Puis je me suis endormi.
Ça a fini 7-6.
C'est ça, je me suis endormi, j'étais allé au lit, je me réveille, puis clac, 7-6 pour les Canucks. J'étais comme, man, comme j'adore ça. J'aurais dû miser, j'ai pas misé. Donc, cette discussion sportive fortement intéressante a été présentée par Betway, something, something. As-tu
mais j'ai regardé un match canadien Toronto cette année, puis les Canadiens ont gagné. Mais je voulais juste dire, j'avais pas fini mon histoire, en fait. Je regardais les films dans le cabanon.
Ah, OK.
Puis pendant les films dans le cabanon, tout à coup, il a vraiment montré sa boisson qui était... il dit, « Oh, habituellement, je bois bubbly, mais cette fois j'ai du aha. » Puis là, ça m'a fait penser à notre Zevia. Puis on a reçu un message d'un de nos auditeurs, j'imagine du Québec, qui nous a envoyé il y a 2 semaines, je crois, puis ils ont envoyé une photo de Zevia dans un magasin près de chez lui. Il dit, je passais juste ici, j'avais jamais entendu parler de ce produit-là, puis là, j'ai vu l'étalage, puis j'ai pris une photo, puis je vous l'ai envoyé parce que ça m'a fait penser à votre podcast.
Ben là, il faut acheter une caisse. Ouais. Comment veux-tu que Zevia vraiment nous commandite si tu n'achètes pas de caisse? Là, c'est le but, c'est le point.
Mais c'est ça. Alors,
c'est le comic, c'est vraiment
Jake,
le comic.
Jake, lequel est-ce que tu suggères? Lequel Zevia tu...
Ma préf serait probablement saut de gingembre.
Ouais,
parce que je trouve que c'est le plus fidèle au goût du vrai, là, comme à mon avis. Puis ensuite... Après ça, on part vers soda mousse, que je trouve très bon. Et aussi, celui ou celle que je goûte tout de suite, que je bois tout de suite, la cerise noire. Je trouve
cerise, orange, bon. Raisin.
Orange, raisin. C'est comme si ils n'ont pas vraiment bien fait les classiques. Comme je trouve que la racinette est OK, le cola est OK.
La root beer crémeuse est bonne.
C'est vrai. Ça, c'est le beige, là.
Puis le cola... C'est OK si tu t'attends pas à boire du cola.
C'est ça. Comme si tu penses que ça va être comme Pepsi ou Coke, tu vas être déçu. Mais c'est bon pour ce que c'est. Ça me rappelle un peu de RC Cola dans le temps, là, comme c'est comme un drôle de off-brand. Mais c'est pas mon préf. Puis là, ils font des saveurs plus comme sauvages, on va dire. Le orange, la cerise noire, le
épinette des bois.
Ouais, c'est ça, c'est comme des crushs, comme des saveurs de crush.
Sueur de gardien de but.
Oh my God. Pourquoi gardien, il sue probablement moins que les autres?
Stache de chasseur.
Aïe, 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 le cul à Luc après un long voyage en Afrique. Ou en Europe. Ça, c'était aucunement une blague sur l'Afrique. C'était une blague sur Luc puis son long voyage.
C'était vraiment raciste comme commentaire.
Oh my God.
C'était raciste.
Cancel me.
Très
please, ouais, please cancel me. Si tu veux m'annuler, là, je te veux plus dans ma vie. C'est comme...
J'étais au Maroc pendant la Coupe du Monde quand le Maroc a gagné contre...
Oh, wow. Ça a capoté ici, là.
Contre la Belgique, c'était fou. C'était fou à Casablanca.
Non, mais sais-tu quoi? Comme, c'était fou ici aussi. Puis il y avait des gens qui conduisaient, ils étaient sortis de leur voiture, ils klaxonnaient, ils criaient dans les rues, il y avait des drapeaux, tout ça.
Mais imagine au Maroc.
Non, mais comme... Je dois dire... Ça arrive à chaque Coupe mondiale. Est-ce Coupe du monde ou Coupe mondiale?
Du monde.
Coupe du monde. Mais ça arrive à chaque fois que l'équipe qui a gagné, qui a remporté la Coupe, ils font ça. Les Italiens, les Français. J'ai déjà vu ça dans ma vie. Mais ils ont seulement gagné la ronde de 16. Puis, j'essaie pas de juger. Je comprends que c'était historique pour leur pays. Mais c'était un peu trop d'une réaction pour quelque chose qui n'est même pas le demi-finale, tu sais, comme, c'est vraiment comme...
Ah, mais jamais un pays africain qui s'est rendu en quart de finale.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Ah.
C'est le plus loin, je pense que c'était le 8e de finale.
OK, je savais que c'était...
Ou si c'était quelque chose, c'est peut-être quart de finale, mais jamais plus loin. C'est vraiment... Okay.
Mais je savais pour leur pays, c'était historique. Je savais pas que pour l'Afrique, c'était historique. Mais bon,
ouais.
Je trouvais ça un peu much. Parce que c'était comme, enfin, vous avez pas gagné la coupe, mais je comprends un peu mieux au moins maintenant. OK, Luc.
En plus, ils ont battu l'Espagne. Puis l'Espagne, c'est vraiment... Oui, ils regardent tout le temps le championnat espagnol.
Mais ils doivent aussi avoir un certain... Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais ils doivent avoir une certaine relation entre le Maroc et l'Espagne, là, un peu géopolitique, parce qu'ils sont drettes là ensemble.
Oui, ben puis il y a un moment où l'Espagne était au Maroc, puis il y a des villes espagnoles en territoire marocain, donc...
Donc, yeah. C'est comme une victoire... c'est quoi
morale.
Qu'on dit? Ouais, morale, quasiment. Anyway, bref. Luc, as-tu joué à quelque chose récemment?
Est-ce que j'ai joué à quelque chose? J'ai joué à un jeu qui s'appelle Codex Naturalis. Codex Naturalis, c'est un petit jeu qui vient dans une boîte en métal et c'est un jeu de cartes. Et le feeling qu'on a en jouant à ce jeu-là la première fois, pour moi, c'est un peu le même feeling que j'ai eu quand j'ai joué. Je ne sais pas si tu te souviens la première fois que tu as joué à Splendor ou la première fois que tu as joué à Azul. On dirait que la moitié du plaisir de jouer à ces jeux-là vient du fait qu'ils sont vraiment beaux. Et puis, c'est un peu ça que j'ai eu comme effet. La première fois que j'ai joué, c'était à Paris avec notre auditeur, là, la dernière fois, mais j'en ai pas parlé. J'ai parlé des deux autres jeux. Et puis, j'ai rejoué récemment parce que j'ai reçu ce jeu-là. Et la raison pour laquelle on a un peu le feeling qu'on a en jouant à Azul ou à Splendor, c'est parce que, encore une fois, c'est les composantes qui font qu'on est content d'y jouer. Ben, en partie, le jeu est bon aussi. Parce que il y a des cartes avec beaucoup de dessins avec la couleur or. Donc, c'est vraiment brillant. On voit les couleurs luire un peu. C'est pas juste une couleur qui ressemble à or. C'est vraiment or dans le sens où on voit vraiment le reflet de la lumière sur les cartes. C'est très, très beau. Puis les dessins sur les cartes sont hyper belles aussi. Le plateau du centre est un peu normal, mais j'adore vraiment les dessins sur les cartes et tout ça. Je trouve qu'elles sont très, très, très réussies. Puis ce jeu-là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous commencez avec une carte de départ. Puis il y a, selon la carte que vous avez choisie ou que vous avez reçue, il y a des coins sur lesquels vous pouvez déposer des cartes que vous avez dans votre main. À votre tour, vous allez jouer une carte, vous allez prendre une carte. Et puis, vous pouvez les déposer sur des coins qui sont disponibles. Mais parfois, sur ces coins-là, il y a des ressources. Donc, au début du jeu, on a des... Par exemple, on peut avoir quatre types de ressources différents. Et puis, là, ça se pourrait, par exemple, que je place une carte, puis là, tout à coup, je viens de cacher une ressource que j'ai, mais la nouvelle carte que j'ai me donne des ressources supplémentaires. Puis, il y a deux types de cartes dans le jeu qu'on peut jouer. Il y a les cartes dorures, donc les cartes qui sont dorées, ou les cartes régulières. Les cartes dorures, quand on les joue... on doit payer pour les jouer. Donc, on doit regarder combien de ressources de tel type on produit pour pouvoir les placer. Et là, on doit faire des combos de points. Donc, par exemple, il y a des cartes qui nous donnent des points automatiquement. Il y a des cartes qui nous donnent des points selon ce qu'on a... Donc, on fait un set collection d'une certaine façon parce que on va essayer, par exemple, si ça dit que à la fin du jeu, on a deux points pour tous les ensembles de deux fioles qu'on a. Mais si j'ai six fioles, j'ai six points. On a des certains patrons à reproduire aussi avec des couleurs de cartes et tout ça. Puis si on réussit à reproduire ça, ben on fait un certain nombre de points. Puis aussitôt que quelqu'un atteint 20 points, c'est l'avant-dernière ronde. Et puis là, on continue jusqu'à la fin et puis on compte les points. Puis il y a des objectifs secrets qu'on a chacun et il y a aussi des objectifs communs qui sont dans le milieu de la table. Donc, on ne sait pas exactement combien de points un joueur va faire avant la fin complètement parce qu'on ne sait pas c'est quoi son objectif secret. On est capable de voir les objectifs communs qu'il ou elle remplit, mais pas ses objectifs secrets. C'est vraiment, vraiment un bon petit jeu. Ça se transporte hyper bien. Moi, je l'ai apporté en voyage avec moi puis on y a joué trois fois. J'ai vraiment, vraiment adoré. Alors, le jeu de cette semaine, Codex Naturalis. Je le recommande fortement. Et toi, vraiment, Jake?
Mais ça a vraiment l'air cool, Codex. J'avais déjà vu, je pense, les couleurs, la couverture là, de la boîte, mais j'ai jamais entendu parler. Donc, ça semble cool, un petit jeu de cartes. Donc, ça m'intéresse d'essayer un jour.
C'est des petites cartes de style européen, un peu comme les cartes, par exemple, de Catan. C'est de toutes petites cartes.
Ah oui, un petit de même, hein?
Oui, exactement.
Cool!
Alors, Jake, à quoi as-tu joué?
Moi, j'ai joué à un jeu qui est un Roll and Write. Quelle surprise! Mais si vous êtes fatigué ou tanné du fait que je parle des Roll and Write, puisque je suis à la recherche du Roll and Write que je trouve le meilleur, mon préféré, ce n'est pas ma faute, parce que j'ai un nouvel ami qui il reste dans le coin, dans mon quartier. Honnêtement, je vous dis, on dit ça en anglais, c'est une expression qu'on dit « on pourrait le frapper avec une roche ». Tu sais, c'est juste la distance d'une lancée d'une roche de chez nous. Mais si j'étais pour lancer une roche, j'ai l'impression que j'arriverais à au moins 40% à la distance. C'est vraiment pas loin. Je peux y marcher en dedans de 10 minutes. Et il aime les jeux. Et c'est cool parce que c'est une nouvelle rencontre. Et maintenant, moi, j'aurai des gens avec qui jouer, pas juste Luc. Il y avait ce jeu-là, Fleet the Dice Game. Je ne savais pas ce à quoi m'attendre parce que c'est un jeu... la boîte est pas très belle, mettons. On voit des vagues, on voit des bateaux de pêche, puis ça a pas l'air très intéressant, mettons. Mais aussi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un roll and write, donc c'était cool de voir. On a deux feuilles pour ce jeu. Une feuille à gauche avec plein de poissons et de bateaux et tout ça, et une feuille à droite avec un type de poisson que je vais expliquer après, un havre, un genre de marché, puis en fait, je ne sais pas comment dire wharf en français, mais je dirais aussi un autre havre, un quai, c'est vrai, un quai, avec plein de bâtisses. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Sur les feuilles, il y a plein de carrés et cercles et étoiles qu'on va remplir avec un stylo ou bien juste cocher si on continue sur une certaine piste. Les cinq poissons, on va commencer avec trois cochés de déjà faites pour nous donner un petit peu d'un avantage dans un certain poisson. Et on va cocher les boîtes une à la fois pour descendre. Et parfois, on arrive à un mot qui dit licence et au permis. Et parfois, on arrive à un mot qui dit bateau. Et là, ça va nous permettre de cocher et d'activer un certain permis ou un bateau. Avec les permis, on a des actions spéciales ou des pouvoirs spéciaux. Puis avec les bateaux, on a de la capacité de stockage, de prendre des poissons une fois qu'on va aller à la pêche. Et ça, c'est à gauche. Aussi en bas à gauche sur cette feuille-là, on a les rondes. Ça montre quelles étapes à suivre. Ça aide quand même beaucoup. On a une place où écrire des points, le pointage final. La feuille à droite, c'est où se trouve le havre, le marché et le quai. Là-bas, on peut acheter des bâtisses qui vont donner certaines habilités spéciales. Ou bien le marché, on va avoir de l'argent, dépendamment de combien de poissons qu'on a réussi à mettre dans nos bateaux. Le havre, c'est où on peut aller embaucher quelqu'un pour nous permettre de faire un autre voyage de pêche supplémentaire privé où nous, on est les seuls à bénéficier, et d'autres bateaux aussi avec d'autres fonctions. Et finalement, un type de poisson qui s'appelle la crabe. Le crabe, ce qui n'est pas, ou le crabe, si on vient d'une certaine partie du Québec, ce qui n'est pas un poisson en tant que tel, mais oui, un genre de fruit de mer. Aussi un permis et aussi des bateaux, mais c'est à droite, parce que ce symbole ne se trouve pas sur les dés pour lorsqu'on fait la pêche. C'est vraiment, il faut utiliser un symbole spécial dans une autre phase. Donc, il y a plein de bateaux, plein de poissons, plein de permis, plein de bases. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé ça très, très complexe au début. J'étais pas... c'était pas difficile à comprendre comment jouer, parce que ça se fait un peu... En commençant, c'est comme un de ces jeux-là qu'il vaut mieux de juste commencer pour apprendre comment jouer que de prendre beaucoup de temps à apprendre des règles, à mon avis. Et en bas, tout en bas, sur la feuille à droite, on voit des pièces d'or, des pièces d'argent, et c'est plein de carrés et parfois des étoiles qu'on va cocher pour montrer combien d'argent qu'on a généré à travers nos activités pendant le jeu, pendant la partie. Lorsqu'on coche une étoile, ça nous donne la chance de cocher une autre boîte dans la feuille à droite. Donc, c'est comme une action spéciale, une action additionnelle qu'on n'aurait pas eue. Puis, ça fait en sorte un genre de réaction en chaîne, ce qui est vraiment le fun. Donc, comment ça fonctionne? On a cinq phases. On a la phase bateau, la phase des revenus, la phase de pêche, puis la phase de ville. En fait, c'est juste quatre phases dans le fond. J'avais dit cinq parce qu'en haut de toutes les phases, ça dit la ronde. Puis c'est vraiment bien fait parce qu'on coche tout. On coche lorsqu'on a un bateau, on coche un petit cercle où on peut le remplir. C'est ce que moi je faisais. On coche lorsqu'on a un permis de plus. Ça nous montre qu'on a accès à ce permis-là. Puis pour les rondes, on coche pour dire c'est la ronde 1, c'est la ronde 2, et on fait telle phase, etc. C'est vraiment cool à quel point qu'on utilise les stylos dans ce jeu-là. C'est vraiment intéressant. Pour les rondes impaires, comme 1, 3, 5, 7, 9, on fait juste trois phases. Bateau, où on lance les dés. Il y a les poissons qui sont sur les dés. Le joueur actif va prendre un dé de son choix. Prochain joueur prend un autre dé, et ainsi de suite. jusqu'à ce qu'il en reste un des au centre et tous les joueurs en bénéficient. Alors, si moi, je choisis le dé de crevette, j'aurai le droit à cocher ou remplir une boîte dans la piste de crevettes. Et peut-être qu'il reste au centre les huîtres. Donc, je peux, tout le monde va pouvoir cocher une boîte des huîtres. Il y a aussi c'est pas aigle fin en français, c'est quoi corde en français?
Morue.
Morue, c'est vrai. Le morue, il y a des homards. Et ouf, c'est quoi poisson poisson épais?
Espadon.
Espadon?
Ouais.
N'espadon ou espadon?
Espadon.
Espadon, espadon. Espadon, ben beau. Great. Donc, c'est les cinq types de poissons qui se trouvent sur les dés. On en prend un et il y en a un au centre qu'on peut cocher aussi. Éventuellement, on frappe le permis ou le bateau, puis on est capable d'aller chercher ces poissons une fois qu'on est à la pêche. Ça arrive pas les rondes 1, 3, 5, 7, 9. Ensuite, on fait les revenus. On a une certaine quantité de revenus. En décochant ou en cochant certaines boîtes, on va pouvoir générer plus de revenus et on a une place pour noter ça pour pas qu'on oublie. Ensuite, on fait la ville. La ville, c'est où on est capable d'acheter les bâtisses, les bateaux, de faire le marché ou de faire le crabe. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans ces trois rondes-là. Et pour les rondes paires, les 2, 4, 6, 8, 10, il y a une phase de pêche qui se trouve entre les revenus et la ville ou le village. Et là, si on a un bateau, on a le droit de prendre un poisson de ce type dans le bateau. Si le bateau est plein, on ne peut pas prendre. Si on a d'autres bateaux dans le havre qui nous permet d'avoir une capacité de stockage extra, on peut ensuite les mettre là-bas, les poissons en extra. Et ça donne des points à la fin. Et à un moment donné, j'ai dit, comment est-ce qu'on va arriver à avoir plein de poissons? C'est très lent. C'est très, très, très lent. Puis c'est comme un peu de bâtir son engin. On va lentement décocher ou remplir de certaines parties. Puis tout d'un coup, on a plein de pouvoirs qu'on n'avait pas au départ. Au marché, il y a un genre de symbole qui dit, si vous avez 40 ou plus, vous recevez 7. Donc, lorsqu'on fait la ronde ou la phase de ville ou village, il y a trois dés différents, avec des symboles différents. Puis un des symboles, c'est le marché. Et j'ai dit à mon ami, comment est-ce qu'on va arriver à avoir 40? Je ne vais jamais avoir 40 poissons à ce taux-ci. Là. C'est très, très, très lent, les rondes 1, 2 et 3. Mais une fois qu'on est rendu à 5, 6, 7, ça commence vraiment, vraiment à augmenter en vitesse puis en action spéciale qu'on peut faire, et etc. Donc, c'est un peu ça le jeu. On va constamment cocher des boîtes, on va essayer de spécialiser dans certains poissons, on va essayer d'avoir de certaines actions spéciales. Chaque poisson a un genre de spécialité différente, d'avoir plus d'argent ou de pouvoir prendre deux poissons ou bien d'avoir des actions spéciales à chaque fois qu'on fait la pêche, etc. Puis à droite, il y a des bâtisses qu'on peut acheter comme un casino. On peut relancer n'importe quel dé lorsque on a un dé qu'on n'aime pas. On peut utiliser les dés comme une action spéciale à la place. On peut avoir des points victoire. C'est un peu un salade de points. Puis, ce qui est vraiment comique, c'est que les poissons pourrissent jamais et tu ne les vends pas vraiment. Donc, thématiquement, ça fonctionne pas. C'est juste qu'ils sont toujours là en permanence sur ton bateau. Et même chose avec l'argent. On ne le paye pas, mais on le ramasse lentement. Puis, à la fin, on n'a pas de points pour les pièces d'argent, mais on a des points pour les poissons, la quantité de poissons qu'on a eu, les bateaux qui donnent certains points de victoire, les permis, les bâtisses, même chose. Il y a aussi des bonis où on peut avoir des points extra. Et on fait la somme et celui ou celle qui a le plus de points en remporté la partie. Est-ce que je l'ai aimé? Oui, je l'ai vraiment aimé. Je pensais pas que j'allais aimer ça. La thématique est vraiment bizarre. On est des pêcheurs, on fait la pêche. Mais c'était vraiment cool comment ça s'ouvrait. Comme au début, comme j'ai dit, je trouvais ça lent. On était stocké constamment, on était coincé. Puis là, round 5, c'est comme, waouh, j'ai tellement d'options, je peux beaucoup faire. Et tout ce que tu fais, c'est prendre un dé à chaque fois que c'est à ton tour. Et là, un autre dé dans la phase de village. Et c'est pas beaucoup de choses qu'on fait, mais les décisions deviennent très, très intéressantes. Et on commence à bâtir un engin, il y a des réactions en chaîne aussi. Donc, je donnerais ça un 8.5 personnellement. Je vous suggère de l'essayer si jamais vous avez la chance, parce que c'est quand même intéressant. J'ai envie d'y jouer à nouveau très bientôt. Donc, oui, ça c'est Fleet, le jeu de Day.
Cool. Jamais joué à ça. Tu disais que c'était un des jeux les plus complexes auxquels tu avais joué là, au niveau des jeux
des Roll and Write, oui.
Oui. Moi, y a le mur d'Adrien auquel je veux vraiment absolument jouer. C'est un Shem Phillips, là. Et puis, je veux vraiment, vraiment essayer ça. Puis aussi, il paraît que le jeu Twilight Imperium, le jeu de dés, c'est très complexe dans le style. C'est moins complexe que le jeu régulier, mais que quand même, c'est très complexe. Alors!
J'avais l'impression de jouer à un vrai jeu, tu sais. Oui, il y avait des dés, puis on notait sur les feuilles, mais j'avais l'impression que c'était complexe, c'était crunchy, il y avait des décisions intéressantes. Comme c'était bon. Je sais pas si ça va être mon préféré, parce que... Je peux pas expliquer, mais bon, c'est très, très bon. Donc, oui.
Oh! En passant, c'est pas un Shem Phillips. C'est un Bobby Hill. C'est Sam Phillips, son frère, qui a fait les dessins. Le frère de Shem Phillips.
Je me demande à quelle fréquence que ça lui arrive. Tu sais. Shem Phillips?
Ouais. Non, mais en fait, c'est que c'est la compagnie de Shem Phillips. C'est Garfield Games. Donc, c'est pour ça que... Okay. On reconnaît vraiment la facture visuelle de Garfield Games.
J'aime ça. Lucky Luke, oui. Luke Deluxe, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, donc?
Alors aujourd'hui, comme je l'ai mentionné en ouverture, on va faire des listes de cadeaux de Noël, mais on y va par prix. Donc, on commence de 25$ et moins. Donc, les prix sont en argent, en vrai argent, c'est-à-dire l'argent canadien. Donc, et on a de 0 à 25$, de 25 à 50, de 50 à 75, de 75 à 100 et 100 et plus. Donc, on avait décidé qu'on allait faire une liste de 5 jeux. Alors, et Jake a tout de suite brisé les règles du jeu.
Oui, triché. Oui. Ben, j'avais dit à Luc, comme il a mentionné ça fait longtemps, puis moi, faut croire que je suis pas très bon à répondre à des messages. Là. Ça, c'est...
Non.
Tout le monde le sait. Tout le monde le sait.
Ouais, ouais,
c'est quelque chose dans moi, je ne sais pas c'est quoi.
Le pape le sait.
Ben, je te dis, tout le monde qui me connaît, ils sont comme, man, tu réponds pas. C'est juste, c'est mon style.
En fait, tu réponds juste à la dernière minute quand, genre, j'ai juste pas beaucoup de temps pour faire ma liste.
Oui, j'aime ça. J'aime ça te mettre la pression en dessous de tes fesses. Ou le feu aussi. So,
oui.
Moi, j'avais de la misère avec cette liste parce que lui qui a mentionné ça. Puis finalement, je trouve ça vraiment un bon sujet, il faut dire. Mais au départ, j'étais comme, man, qu'est-ce que ça fait? Comme, il y a des jeux, comme Ticket to Ride qui est 50$, mais c'est 18 ans de vieux. Je suis comme, pourquoi on divise les cadeaux de Noël par la quantité que ça coûte et non genre un type de joueur ou quelque chose? Puis on avait déjà un peu fait ça dans le passé. C'est pour ça qu'on n'a pas refait ça. Peut-être qu'on va revisiter ça un jour parce que ça évolue, ces listes-là. Mais finalement, je me suis mis à l'affaire. J'essaie de le faire. J'ai checké les listes en ligne comme meilleur cadeau de Noël pour les gamers, pour les jeux de société. Puis ça revenait tout le temps, les Ticket to Ride, Catan, Pandémie, tu sais, King Domino. Puis j'étais comme, man, si t'achètes ça pour un gamer, ils vont pas vouloir avoir un copie de Ticket to Ride de 2004 parce qu'ils ont probablement déjà joué. Puis je sais qu'il y en a qui n'ont pas joué ça, je sais pas dire ça, mais...
Non, les gamers, ce qu'ils ont pas, c'est qu'il faut que t'achètes un Monopoly, par exemple, Millions.
C'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'ai trouvé ces listes à des pas. Puis là, j'ai commencé juste à checker des jeux. J'essaie juste de trouver des jeux que je pensais fitter là-dedans. Anyway, j'avais de la misère. Mais à cause de ça, j'ai fini à faire quelques mentions spéciales dans chaque catégorie. Puis Luc, il n'est pas très content que j'ai brisé les règles. Mais... voilà. Donc, veux-tu que je parte ça, mon gros beau Luc?
Commence, mon petit Calinours.
Est-ce pas donc ben beau? OK.
Espadon.
En moins de 25$. Ça, c'est une chose. Je ne sais pas, Luc, comment t'as, en français, là, comme en anglais, comment est-ce que t'as appris Swordfish, que tu sais comme, yeah, I know what a swordfish is. Quand est-ce que je vais parler de ce fucking espadon?
Ouais, ben, on a eu un peu cette conversation-là en anglais où je cherchais le mot pour losange en anglais.
C'est vrai.
C'est ça. On a vraiment, c'est le genre de choses où, tu sais, Jake, par exemple, il n'y a aucun problème à parler en français. Zéro problème à parler en français. Tu parles d'à peu près tout ce que tu veux. Mais quand ça arrive à des marques de poissons, tu fais
Ben oui, ben oui. Donc, ça arrive à tous les deux dans des situations.
Moi, c'est la même chose. Les sortes de poissons en général, je ne sais pas c'est quoi la traduction. Récemment, que j'étais à cette île, puis là, tout à coup, il y avait du turbo. Puis là, mon épouse me demande, c'est quoi du turbo? J'ai fait, ben, c'est une sorte de poisson. Puis là, on a découvert que c'était flounder.
Oh, wow! Et voilà.
Et voilà.
Cette discussion poissonnière, très fortement intéressante, vous êtes commandité par Zevia, la cerise noire. En dessous de 25 $, moins de 25 $, mon jeu numéro 1 ou le jeu que je trouve c'est la meilleure option, c'est The Crew Deep Sea Mission. Je ne sais pas s'il existe une version française ou non, mais la raison, en majorité de mes choix, je les ai choisis parce qu'ils sont plus récents et risquent de ne pas avoir ce jeu, votre personne. Cette personne risque de ne pas avoir. Il y a le plus de chances, j'imagine. Et il y a un autre certain lien, peut-être qu'ils connaissent déjà ou ils voudraient déjà. Donc, c'est ça ma logique. So, j'imagine que le monde a déjà joué à The Crew, si c'est un gamer, parce que c'était très, très populaire dans le temps, 2019. Ça, ça est sorti en 2021. C'est $14.95 à Meeples and Milkshakes et $15.89 à Board Game Bandit. Et en passant, on est au Canada, on utilise les dollars canadiens et c'est des boutiques canadiennes aussi. Donc, si vous êtes en France, on s'excuse. Vous ne comprenez pas rien outre que l'euro.
En fait, si vous êtes en France, vous êtes content, le numéro est plus petit.
C'est ça. C'est ça, quand vous allez faire la recherche, ça va être même moins cher. Donc oui, si par chance, cette personne, vous le savez que cette personne n'a pas joué à l'original, The Crew, Deep Space Nine, whatever. C'est pas Deep Space Nine, mais ouais. Celui de l'espace, c'est $13.45 en ce moment sur Amazon.ca. Donc, ça, c'est un no-brainer. Il faut absolument acheter ça. C'est incontournable comme jeu. Voilà, The Crew.
The Crew. Moi, mon numéro 5, ou le jeu le moins cher, c'est-à-dire sous 25 $, c'est Codex Naturalis. Codex Naturalis. Alors, vous pouvez le trouver pour 21 $ sur Board Game Bliss. À Imaginaire, il est plus cher, mais vous pouvez aller à l'île aux jeux, L-I-L-L-O, jeu. Au pluriel, et puis il est à $24.95. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas le décrire davantage, mais quel bon jeu à transporter. Ça se transporte tellement facilement dans les valises avec une petite boîte en métal. Alors, lorsque tu partiras au Québec et en Ontario pendant ce temps des fêtes, Jake, tu pourras acheter ce jeu et l'apporter avec toi pour pouvoir jouer avec les familles des personnes avec qui. SMR. Alors, on devrait faire un épisode SMR comme ça, Jake, où on parle et on fait juste augmenter le volume. Et lorsqu'on parle...
Tu sais que c'est ce que je vais faire.
Ah, fantastique.
Je vais augmenter autant que possible.
Alors, Jake, quel est ton jeu? De 25 à 50 $, Jake.
En fait, j'ai des mentions spéciales. Mes mentions spéciales. Très, 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 très fameuses. Donc, moi, j'en ai un dans une boîte de métal aussi. Sushi Go. C'est 10 piastres à Walmart. Là.
C'est pas possible.
Si vous l'avez pas acheté là, si vous connaissez quelqu'un qui l'a pas acheté là, 10 piastres, c'est parfait pour le bas de Noël et tout ça. C'est à tous les Walmart. En fait, cette version ne vient pas dans une boîte à métal, là, j'ai menti. Donc, vous arriverez pas à Walmart en me sacrant, là, parce que j'ai corrigé. Mais la version que j'ai, c'est en métal. L'autre mention spéciale, c'est Get On Board. J'en ai parlé l'épisode d'avant, si je me trompe pas. Ça aurait été le jeu, parce que je trouve ça vraiment bon pour le prix. C'était un jeu rare, la première version, puis là, c'est disponible. Mais c'est $25.95 à 401 Games. Et $27.95 à Great Board Games. Donc, un peu au-delà de 25. Et ça est sorti en 2022. Là, la deuxième catégorie, de 25 $ jusqu'à 50 $, je trouve que j'ai choisi vraiment... Ça, c'est comme mon choix duquel je suis le plus fier. Puis c'est Wingspan Asie. c'est une nouvelle version Wingspan qui est sortie en 2022. Et la raison que je trouve aussi bon, c'est parce que on peut jouer solo, on peut y jouer à deux, c'est comme un standalone à deux, on n'a pas besoin du jeu de base pour y jouer, mais ça peut agir comme extension des cartes de nouveaux oiseaux, mais aussi une extension qui nous permet de jouer à 6 ou à 7 avec le jeu de base. Donc, peu importe la personne pour qui vous achetez ce cadeau-ci, ça va probablement être une réussite parce que s'ils l'ont pas, ils peuvent jouer à deux ou solo. Et s'ils ont Wingspan, vous pouvez, ils peuvent jouer à 6 ou à 7 ou bien ajouter des cartes des oiseaux qui proviennent de l'Asie. 2022, ça est sorti. C'est $43.95 à Legends Warehouse et $44.95 à Great Board Games.
Ah! Good pick, my friends. Good picks, my friends.
Merci.
Good pick.
Merci.
C'est vrai que c'était difficile, cette partie-là, un peu. La partie 25-50, 50-75, c'est vraiment la partie où il y a une très grande variété de jeux excellents, en fait.
Oui, tout à fait.
Oui, alors moi, j'ai choisi Mille Fiori. J'en ai parlé il y a quelques épisodes. Je crois que c'est peut-être le dernier ou celui d'avant, mais retournez écouter celui-là si vous voulez vraiment dans le détail. Mais c'est un jeu où on essaie de faire des combos pour faire le plus de points possible en plaçant des losanges de verre quelque part sur un plateau. Lorsqu'on ouvre le plateau, on a vraiment l'impression qu'on va avoir besoin de lire beaucoup, beaucoup de règles, mais c'est quand même très, 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 très simple. C'est un jeu... C'est une sensation très différente à 2, à 3 ou à 4 parce qu'on se bloque vraiment à 4 alors qu'à 2, il y a des sections où parfois on va même laisser l'autre aller pendant longtemps parce que nous, on est en train de se concentrer sur une autre partie du plateau pour faire des points. Les deux parties les plus satisfaisantes de ce jeu-là, c'est vraiment au niveau visuel lorsqu'on finit. Le plateau est très beau parce qu'on place des losanges de verre, on voit au travers, c'est très coloré sur le plateau. Et la deuxième, c'est qu'on fait beaucoup de points, on fait une très, très grande quantité de points. Alors, on va finir des parties 170 à 175 et tout ça, donc c'est vraiment un jeu où ça bouge beaucoup. On est tout le temps en train de faire, on peut tirer de l'arrière par 30 points et tout à coup, le tour d'après être rendu devant le joueur qui nous devançait auparavant. Donc, un excellent jeu, ça se joue assez facilement avec toute la famille. Mille Fiori, mon jeu de 25 à 50 $.
Cool. Mes mentions spéciales pour celui-ci, c'est The Loop.
J'ai oublié de dire par contre, Imaginaire 45 $ et Board Game Bliss 44 $.
Parfait. The Loop, c'est un jeu coopératif. J'y ai joué, mais j'ai pas parlé aujourd'hui. Je vais parler à un épisode plus tard à l'avenir. C'est un jeu coop, thématique voyage dans les temps, et il y a un méchant qui essaie de prendre contrôle du monde, puis on doit l'arrêter. C'est vraiment cool. Cool de design, cool de look. $40.95 à 401 Games, $42.95 à Great Board Games. Et l'autre pour les...
Ça, ce jeu-là, j'ai vraiment... pendant longtemps voulu y jouer. Je me disais, je vais le commander un jour. J'aime vraiment le look de la couverture de jeu.
C'est super unique. J'ai jamais vu un jeu avec un tel style de design graphique.
Ça fait très bande dessinée d'un style, tu sais, bande dessinée indie un peu. Là.
C'est ça. Je l'ai beaucoup aimé. Et pour les enfants, une mention spéciale ou pour les familles, les aventuriers du rail, je sais pas si ça s'appelle... Le premier voyage en français, mais c'est First Journey en anglais. C'est un jeu de 2016, ça c'est quand même loin, mais à $37.99 sur Amazon.ca pour une famille que vous connaissez ou bien pour vos enfants, je pense que c'est une bonne option. Ça nous rend à la troisième catégorie, $50 jusqu'à $75. Moi, j'ai choisi Horrified American Monsters. Ça est sorti en 2021, alors encore une fois, c'est très récent. Et je trouve que Horrified, juste le jeu de base, ou l'original, je devrais dire, et cette deuxième version ne reçoivent pas autant de je sais pas comment dire ça, mais couvrage. Le monde n'en parle pas tant.
De couverture médiatique.
C'est ça. Je trouve que le monde n'en parle pas tant que ça en ligne. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est encore une fois un standalone, c'est-à-dire on peut y jouer sans avoir la première version. Et donc, si la personne pour qui vous achetez ça, ils n'ont pas Horrified, l'original, ou s'ils l'ont, ils vont probablement apprécier puis aimer cette version. Si c'est 47 et... Oh non, excuse-moi, c'est 49 et 95 à 401 Games. Donc, j'ai triché par 5 cents. Parce que, tu sais, avec les taxes, là, ça dépasse le 50.
Ah, voilà, là, là,
ça, c'est tricheur. mon numéro 3 ou mon catégorie 3.
T'es qu'un sale tricheur, mec! Oh là là, c'est bien. Ça, c'est donc, c'est ton jeu 50, on est rendu 50-75.
Oui, monsieur.
Alors, moi, mon jeu pour 50 à 75, c'est un jeu un tout petit peu plus vieux. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Bien, on en a déjà parlé à ce podcast-ci il y a longtemps, mais on dirait que, pour une raison étrange, nous n'en parlons pas assez souvent. C'est un jeu de 2018 appelé Everdell. Everdell, c'est un jeu, la première fois que j'ai joué, ça se joue en quelques saisons, puis lorsqu'on finit la première saison, on se dit « Oh, OK, ça va aller vite », parce que moi, ma première saison, on l'a fini presque tout de suite. La raison pour laquelle je mentionne ce jeu-là comme cadeau de Noël, c'est tout simplement parce que ça a vraiment un effet « wow » sur la table. Vous avez, lorsque vous le mettez sur la table, il y a un arbre en trois dimensions. Vous allez placer vos petits meeples en haut et tout ça. Puis là, vous avez vraiment une sorte de clairière où vous allez placer des cartes dans le milieu de la table. Puis même si vous achetez des extensions éventuellement, elles s'emboîtent avec le plateau de base. C'est vraiment, vraiment bien fait. Puis c'est très, très, très beau. C'est un jeu, disons, dans les jeux, c'est peut-être un des jeux plus faciles des jeux complexes. C'est un peu comme ça que je l'expliquerais. Comme ça, si vous voulez essayer de passer des jeux intermédiaires à un jeu un peu plus complexe, c'est vraiment une première bonne étape. Et c'est un jeu dans lequel vous allez ramasser des cartes, vous allez essayer de les jouer devant vous, puis vous faire une sorte de tableau qui vont vous donner des pouvoirs supplémentaires, qui vont vous permettre de pouvoir acquérir davantage de cartes et faire davantage de points avant la fin. Je te dirais que le plus gros défaut de ce jeu-là, c'est aussi sa grande qualité. C'est-à-dire que quand quelqu'un change de saison, on n'a pas besoin de l'attendre. Il n'y a pas besoin d'attendre les joueurs qui n'ont pas fini les saisons avant. Par contre, un joueur pourrait finir littéralement 45 minutes, une heure avant tous les autres à la fin du jeu. Donc, ce n'est pas un jeu où tout le monde finit en même temps. Je sais, moi, la première fois que j'ai joué, je pense que j'ai fini une heure avant tout le monde. Je n'ai pas gagné.
J'étais là. C'était la dernière fois qu'on s'est vu en personne.
Ouais, et je n'ai pas gagné. Mais donc, Everdell, un excellent jeu, un très beau jeu. Et qui coûte à Board Game Bliss 80... Non, à Imaginaire 99,99 et Board Game Bliss, je l'ai vu pour 61,95.
Wow!
Donc, c'est quand même un bon prix.
Moi, les mentions spéciales que j'ai mis Villainous Star Wars. Si vous
Star Wars!
Si vous aimez Villainous... pour moi, c'est vraiment bien. Puis cet univers-là de Star Wars, tout le monde l'adore. Et si même vous connaissez juste quelqu'un qui est geek ou fan de ces films-là, je pense que même si ce n'est pas des amateurs de jeux, je pense qu'ils vont apprécier et aimer le jeu. C'est 52,95 à Board Game Bliss, 52,99 à la Revanche, à la ville de Québec. Et une autre mention spéciale que Luc, il va absolument pas aimer, et c'est Betrayal à The House on the Hill. J'oublie c'est quoi en français, mais... Oui, c'est bien, c'est bien. T'as toujours de bons points. Bien, bien, bien dit. Troisième édition, par exemple. Ça vient de sortir en 2022. Même chose pour Villainous Star Wars. En passant, c'est 2022. Donc, il risque, ça se peut au moins, que la personne ne sache même pas que ça existe encore. Ça, c'est un coup de cadeau dans ce cas. Troisième édition de Betrayal d'House on the Hill. La raison que j'ajoute ça, c'est parce qu'ils disent qu'ils ont mis à jour le design. Ils ont mis à jour les miniatures. C'est plus beau, c'est plus bien fait. Il y a maintenant 50 nouveaux scénarios qui se rajoutent au jeu de base. Ils ont essayé de corriger ou de réparer des problèmes que le monde rencontrait dans le jeu, donc des bugs ou des genres de sections qui étaient moins évidentes. Et ils ont streamlined, ils ont rendu ça un peu plus efficace et facile de jouer au jeu. C'est un jeu que j'aime. que je déteste et que j'aime, ou que je veux absolument aimer, puis j'y joue, je le déteste, je le revends, je le rachète, j'y joue, je le déteste, je le revends, je veux l'aimer. C'est un problème, mais c'est tellement populaire que si vous connaissez quelqu'un qui a la première ou deuxième édition, puis qui il en mange, là, qui adore le jeu, peut-être qu'ils ne savent pas que ça est sorti en 2022, puis de leur donner une nouvelle version avec meilleur design, meilleure miniature, plus de scénarios, mieux designé, puis tous les bugs qui sont plus là. Je pense que ça va être vraiment cool de cadeau s'ils adorent ce jeu. C'est super populaire. Il y a quasiment des mimes là-dessus. 55$ et 34 cents sur Amazon.ca. Je suis même moi intéressé à peut-être acheter. Ce qui est con, j'ai une maladie pour ce jeu-là.
Combien?
55 et 34.
Ah.
Donc, je sais que j'en fais trois. Mais je m'excuse, Luc. Je sais, c'est pas juste. Mais
je suis vraiment pas fâché. Moi, je suis pas, je suis pas square comme toi.
Prochaine catégorie, c'est 75$ jusqu'à 100$. Donc, c'est drôle parce que je me suis dit, je vais aller en premier, puis il va aller en deuxième, puis là, je vais faire les mentions spéciales, et comme ça, ce serait pas trop de Jake tout à la fois, tout de suite.
Ça change pas grand-chose, t'as ta mention spéciale, puis ton premier.
C'est ça, ce que je viens de réaliser, je suis con, moi. Anyway, donc, mon jeu 75$ à 100$, cette catégorie-ci, je voyais ça comme si, imaginez quelqu'un que vous connaissez qui voulait vraiment acheter un jeu, mais c'est donc ben trop cher. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer un centaine de dollars pour un jeu. Donc peut-être qu'ils ont laissé passer ce jeu-là. Et c'est la chance, l'occasion de leur offrir un beau cadeau d'un jeu qu'ils voulaient depuis longtemps. C'est un peu comme ça que j'ai approché cette catégorie-ci. Et c'est pour ça que je suis arrivé au jeu Spirit Island. En fait, d'ailleurs, il y a un bon ami qui m'a donné une copie de ce jeu-là, un Noël, il n'y a pas si loin que ça. Ça est sorti.
Je vois. C'est un très, très, très bon jeu.
Il est aussi bon. Oh, je pensais que tu allais dire un très bon ami. Je pensais que c'est ça que tu allais dire. Moi, j'allais répondre. Il est aussi bon qu'il est laid.
Oui.
C'est très, très, c'est le mot opératif. C'est un très bon jeu, j'y ai pas joué, si vous pouvez y croire, c'est emballé dans le plastique, j'ai honte. C'est sur ma liste de honte si vous avez écouté cet épisode-là. C'est 2017 que ça a été sorti et c'est 75,95 à Level Up Games, L-V-L-U-P, il n'y a pas de E dans le mot level, Level Up. 79,99 à la revente. Je ne sais pas si c'est la version anglaise ou française. Et Amazon, là, à 95,95. Donc, clairement, ça reste quand même un jeu très cher. Si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment un méga gamer puis ils l'ont pas, ils vont probablement incroyablement apprécier ça parce que c'est très cher. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer 90$ pour un jeu. Donc, voilà, Spirit Island.
En passant, Quacks of Quedlinburg. Endommagé, 32$ à Meeple Mart.
Tout de suite, là?
Oui, tout de suite, là.
Chris.
C'est ça qu'ils disent. Hein?
Ça me dérange pas les endommagés, là, mais je commence à dire, est-ce que je veux vraiment endommager, tu sais?
Parce que c'est dur à revendre.
C'est ça le problème. C'est pas moi, c'est les autres.
Ouais, c'est ça. C'est pas moi, c'est toi.
Mais oui, je vais peut-être acheter ça. Crime. OK.
Mais tu vas pas le revendre. C'est vraiment un bon jeu.
Ah ouais? OK.
C'est vraiment, vraiment, vraiment
32,
bon
c'est comparé à quel prix normal?
Sur eux, je pense que... Attends, alors, site web, je pense qu'il est 40.
OK. Non, ben, c'est pas si bon, non.
40. Ben, c'est 8$. C'est presque un quart du prix.
Ouais, mais ça paye juste la livraison de là. Je marchais à l'os des jeux, l'acheter moins cher, peut-être. Je ne sais pas.
Vérifie, mais je pense que c'est cher habituellement à d'autres places.
Cool. Toi, ton 75 à 100, mon gars.
Ah, mon gars, c'est un jeu auquel j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup récemment avec les gars de On joue-tu, en fait, avec Benji et David, pas avec Mathieu, avec les deux autres. On est tout le temps en train de jouer une partie, on rejoue, on finit, on en rejoue une autre, on en rejoue. C'est Tapestry. Tapestry qui est un jeu que j'adore. C'est vraiment, vraiment un jeu que j'adore. C'est un jeu, officiellement, c'est un jeu de civilisation où on avance dans quatre pistes, sur quatre pistes différentes, et qu'on essaie de durer le plus longtemps. C'est ça la partie intéressante du jeu, c'est que En choisissant nos actions, on essaie de s'assurer de garder le bon nombre de ressources pour pouvoir continuer parce qu'on doit payer pour avancer sur les pistes. Et plus on avance, plus ça coûte cher. Puis plus ça coûte cher, moins il nous reste de ressources pour continuer à avancer. Donc, on essaie de faire des combos qui vont nous permettre de continuer à avancer selon le pouvoir de notre peuple, selon les pistes, selon où on arrive, selon ce que les autres font. Si on arrive après les autres sur une piste, on réussit pas à récupérer des bâtiments qui nous font remplir notre capital et tout ça. Honnêtement, j'adore ce jeu-là, puis visuellement, il est fantastique. Alors, je le recommande, c'est vraiment un effet wow sur la table aussi. Tapestry, 84-95 en français à Imaginaire et 89-95 à Board Game Bliss en anglais.
T'as-tu dit Meeple Mar pour Quacks of Quedlinburg?
Oui.
C'est pas là, moi.
Ouais, dans les Damage Deals, le premier.
Ok, je vais checker ça. Ok. Donc,
Damage Deals, le premier choix, c'est les charlatans de Belcastel.
J'ai fait
en français.
Une recherche.
Ah, mais c'est en français, là, c'est en français, c'est en français.
Ah, oh, c'est pour ça que j'avais mis en anglais.
C'est les charlatans. C'est les charlatans.
Okay. Puis c'est indépendant de langue, right?
Non.
Parfait.
Donc, non, ça l'est pas parce que. Ça se jouerait quand même pas si de façon si compliquée que ça. C'est juste c'est juste les pouvoirs des rondes. Faudrait juste que tu expliques aux personnes qu'est-ce que chaque couleur fait. Mais quand même, il faut comprendre.
OK. Donc, mes mentions spéciales pour cette catégorie, j'ai ajouté Tapestry. C'est le même jeu que Luc. Donc, c'est très, très bon. Je l'aime. J'ai joué quelques fois en ligne aussi. 76 et 49 Wood for Sheep, 79 et 99 Hobbiesville et 85 et 95 401 Games. Et l'autre, c'est plutôt pour les familles ou les enfants. Ça s'appelle Mice and Mystics. C'est un jeu assez vieux maintenant, 10 ans de vieux. Mais si vous n'avez pas joué à ce jeu-là et vous avez des enfants, c'est fantastique. C'est vraiment un jeu de jouer de rôle. Puis on suit de l'histoire, il y a des chapitres, il y a des différentes missions et tout ça. C'est un peu similaire à un Gloomhaven, mais un peu plus pour les enfants. Ou les familles. Great Board Games, là, à 79 et 95. Et Imaginaire l'ont à 99 et 99. Oh, excuse-moi, 89 et 99. Donc, je trouve que c'est un jeu fantastique pour les familles. C'est difficile à trouver. Même usagé, parfois, ça finit par être à peu près 50-60 payants. Luc, tu m'as dit que tu as eu ça à 40, ce qui est un bon prix, je trouve, pour ce jeu, parce que c'est aussi rare et aussi voulu que d'habitude, même usagé, c'est cher. Donc, le fait qu'il existe des copies neuves, je vous suggère vraiment d'investiguer ça. Mice and Mystics, qui est sorti en 2012. Donc, voilà.
Ouais, 40$ j'ai payé. 40$.
Je pense que j'ai payé quelque chose de similaire quand j'ai acheté ma copie.
Mais j'ai jamais joué. Jamais. Moi, littéralement, j'ai aucune idée comment on joue.
Moi, j'avais comme une mission, là. J'ai pas beaucoup joué, mais je trouvais ça vraiment, vraiment bon. Puis, la thématique est le fun. C'est des souris qui, comme, essaient de se battre contre d'autres petits animaux. Donc, c'est fun. À 100$ ou plus, j'essaie de rendre ça à peu près 100$. Je voulais pas que ce soit comme 250$ pour la version Kickstarter de quelque chose. C'est un peu irréaliste. Mais j'ai choisi un jeu qui un peu comme Horrified, je trouve que le monde parle moins de ce jeu. Alors que je pense que le monde qui aime ce style de jeu vont vraiment triper là-dessus. J'y ai pas joué, mais j'ai cette impression. Puis c'est Ankh, A-N-K-H, les dieux de l'Égypte, ou Gods of Egypt en anglais. Probablement vous n'allez pas trouver une version française parce que c'est un producteur de jeux américain. 2021, ça est sorti. Puis ça fait partie de la trilogie de Eric Lang, qui est un designer. Il a conçu aussi les jeux comme Blood Rage et Rising Sun. Donc, si vous aimez ces jeux, vous connaissez quelqu'un qui aime ces jeux-là, Ankh est considéré comme le genre de trilogie spirituelle. Je pense pas qu'il y ait un lien entre les jeux. J'ai pas joué à tous les trois. En fait, j'ai pas joué ni un, ni l'autre, ni l'autre. Mais c'est 110$ et 99$ cents à Game Shack, 115$ et 95 cents à Mr. Dice Guy. Tu peux trouver ça bien plus cher que ça, mais c'était les sites web où j'ai trouvé ça le moins cher. Et comme je vous ai dit, 2021, le monde en parle un peu moins. Ça se peut que la personne pour qui tu achètes ça n'a pas une copie ou bien qu'ils n'ont même pas entendu beaucoup parler. Donc, Ankh, Gods of Egypt.
Hein? J'ai essayé Blood Rage en ligne seulement une fois. Puis je dois avouer que j'ai été vraiment déçu.
Oh!
J'ai été vraiment déçu, mais, ouais, mais j'ai joué juste une fois.
Je n'y ai pas joué, donc je dis pas le contraire, mais j'avais entendu que c'est vraiment bon.
Ouais, mais c'est peut-être pour ça que j'ai été déçu. je sais pas si c'est ça la raison. En tout cas, j'étais déçu. Mais j'aimerais le réessayer quand même. Je suis vraiment, je suis vraiment comme pas sûr que j'y ai joué de la bonne façon. Je sais pas. En tout cas, j'ai été déçu. Donc, je vais le réessayer une autre fois. Puis, par contre, j'ai tout le temps été attiré par Rising Sun et Ankh, I don't know, whatever que ça s'appelle. On dirait que le thème m'attire pas tant que ça, mais je veux l'essayer quand même, juste parce que, encore une fois, c'est des jeux vraiment reconnus et tout ça, donc on verra.
Cool.
Moi, mon jeu à 100$ ou plus, c'est Clank Legacy. J'en ai parlé il y a quelques temps. J'ai adoré mon expérience Legacy et je pense que ça serait un cadeau fantastique. Si vous avez les moyens de payer ça à quelqu'un, ce serait en plus, dans le temps des fêtes, un excellent temps. Admettons que vous avez une semaine de congé entre Noël et le jour de l'an, vous jouez deux parties par jour, vous allez avoir une expérience fantastique, vous allez développer une histoire et à la fin, vous pouvez garder le jeu et continuer à y jouer. Si vous comprenez l'anglais, Board Game Bliss, $103.95. Si vous ne parlez que français, j'ai regardé Imaginaire, $199.99. Donc, c'est quand même un jeu dispendieux. Je l'avais payé moins cher que ça. J'avais eu un gros solde il y a quelques temps. Mais c'est un excellent, 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 excellent jeu qui en vaut totalement la chandelle. C'est un deck builder la partie qui est intéressante ou qui peut être frustrante pour certaines personnes là-dedans, c'est une sorte de mélange entre un jeu coop et un jeu compétitif. On veut réussir à battre le jeu d'une façon, mais on veut gagner contre les autres en même temps. Donc, ça crée certaines frustrations pour certains joueurs. Mais cela dit, c'est un excellent deck builder dans lequel vous allez explorer les bas-fonds de certains donjons.
Très, très cool.
Et c'est cela.
Je voulais mentionner pour Mice and Mystics, il existe des versions françaises, puis probablement la version Imaginaire, c'est en français, j'imagine, parce que j'ai une extension qui est en français et c'est important puisque c'est un jeu avec autant de narration, autant de texte, il y a comme un genre de guide et des histoires qui se racontent et tout ça. Donc, si vous êtes uniquement francophone, checkez Imaginaire, ça se peut que ce soit cette version-là. Pour 100$ et plus, j'ai quelques mentions spéciales. J'ai ajouté Oath, Chronicles of Empire and Exile. Je ne connais pas, mais c'est la même maison d'édition que Root. Et ça a l'air d'être les mêmes designers, ça a l'air d'être le même design graphique, parce que c'est presque comme si c'est le même univers. J'ai l'impression que si le monde aime Root, ils vont peut-être aimer ça. Oath, ils font des jeux avec juste 4 lettres, c'est vraiment intéressant. 107,98$. Imaginaire, 109,99 Brimstone Games et 121,92 à 401 Games à Toronto. Prochaine, c'est Sleeping Gods. J'essaie de trouver d'autres méga jeux de designers que tout le monde aime ou comme Ankh ou Ankh, des genres de trilogie, la suite de quelque chose. Ryan Lockett est très, très, très célèbre dans le monde des jeux. Et Sleeping God, c'est son nouveau jeu de 2021. J'entends tout le temps parler de ça en ligne. Tout le monde en parle. J'ai pas joué. Mais c'est 108,99 à Board Games and More. 109,95 à Legends Warehouse. Sleeping Gods qui est sorti en 2021. Et bien sûr, qui ne voudrait pas une copie de Tumbling Dice? Parce que c'est vraiment juste et vraiment correct de charger plus de $100 pour les planches de bois et quelques dés. Colin, je veux ce jeu-là dans ma vie, mais ça, c'est ma mention honorable comique, parce que fuck you pour charger plus de 100$ pour quelque chose d'aussi simple et pas...
Monsieur est fâché.
Ben, j'aime le jeu trop pour être fâché, mais je suis un peu déçu.
Monsieur est fâché.
Luc, est-ce que tu as autre chose que tu aimerais dire à notre belle audience?
Que la vie est belle, belle, belle.
On vous aime beaucoup.
Oui, c'est ça qu'ils se disent. Jake, j'ai hâte de te voir la
semaine
prochaine.
C'est vrai, on va se voir pour la première fois depuis 3 ans, la semaine prochaine. Et donc, si cet épisode-ci, ça va aller en direct, en ligne, le 10 décembre, samedi le 10 décembre. En fait, on est censé dire le samedi 10 décembre, mais je refuse. Samedi le 10 décembre. Et si vous êtes à Ottawa, à Gatineau ou aux alentours dans la semaine du 12 décembre, contactez-nous parce qu'on va se passer beaucoup de temps ensemble. On va aller jouer au jeu ensemble et peut-être même enregistrer un épisode en direct ensemble. Si ça vous tente de jouer avec nous, on aimerait bien ça. Donc, contactez-nous.
Please do. Please do.
Même à Montréal, c'est pas si loin que ça. Puis on est fucking célèbres, nous autres.
Si vous faites partie de nos deux fans à Montréal, venez.
Nous allons jouer. La route à 1h45. C'est tout.
Exactement.
OK. Donc, jusqu'à la prochaine fois, c'était Jake.
Et Luc.
Et vous avez écouté notre podcast de jeux de société.
Ménage à deux.
Hey, c'est moi qui ai dit ça cette fois, c'est jamais moi. C'était bien dit, quand même.
C'était bien dit. T'as bien fait ça. Bravo, Jake.